t'aspires pas à la souffrance, tu dis. On n'aspire pas à la souffrance, mais quand on la vit, on a cette foi-là que certainement que Dieu peut changer le mal en bien. Absolument. Serge. Ouais. Qu'il y a encore ça? C'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Libérer de la souffrance. Oui. 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 Non, OK. Non, mais c'est bien ce que tu dis, c'est bien ce que la façon dont tu l'apportes. Et justement, je vous invite à tourner avec moi, Claude, j'ai vu ta main, pendant qu'on tourne, tournez avec moi dans Genèse 3. Vas-y, Claude, si tu veux commenter pendant ce temps-là en même temps. Ouais. 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 Ouais, c'est ça. Oui, vas-y, Claudette. Oui. Oui. Mais oui. Et nous emmène à aller plus loin, même malgré la souffrance, absolument. Oui, René. Oui. C'est ça. Oui. 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 C'est ça. Et c'est justement cet aspect-là, tous les commentaires que vous avez apportés, Diane, ça ne sera pas long, j'ai vu ta main, ces aspects-là sont tout à fait vrais. Et cet aspect, tu as employé le mot « alarme », j'ai employé ce soir le mot « sirène », mais l'alarme, c'est la même chose. Si on n'avait pas, prenons notre corps physique, mais vas-y, Diane, après ça, je continue d'avancer. Oui. Ouais. Certainement. Tout le monde, toute l'humanité, certainement, à un moment donné, souffre et va en vivre ou en a vécu. Puis ton sentiment de dire, moi, j'aimerais bien mieux ne pas en avoir, ben c'est tout à fait comprenable. Hein? On est capable de comprendre l'idée que personne ne souhaite avoir des souffrances. Mais quand on est dedans, on comprend la raison. Imaginons notre corps physique. Puis, imaginons, par exemple, ne jamais avoir aucun signal d'alarme de notre corps physique. Si, par exemple, on commence à avoir mal fortement au côté, là, tu me diras pas si je me trompe, là, puis à un moment donné, on rentre à l'hôpital, puis on se rend compte que c'est l'appendice qui a un problème. C'est-tu à gauche ou à droite? C'est l'autre bord ici? Bon, alors, c'est, tu sais, j'ai jamais eu de problème d'appendice. Si vous en avez eu un, vous vous en souvenez sûrement. Hein, mais quand ça commence à faire mal, là, c'est pourquoi? C'est parce qu'on le sait que là, faut pas niaiser, là. Ou quand on commence à avoir mal, comme René, t'as déjà eu les pierres aux reins, j'imagine que tu t'en souviens aussi. On se dit, là, il y a un signal d'alarme qui me dit, rends-toi à l'urgence parce qu'il y a un problème. Même façon, si on sort pelleté puis on commence, oh, ça commence à faire mal. Mais là, c'est, assis-toi un petit peu parce qu'on fait passer la tension. Ben, la souffrance qui est dans nos vies, Dieu l'utilise comme signal d'alarme pour nous amener à lui, pour nous tourner vers lui. La souffrance n'est pas seulement là, comme on pourrait l'imaginer en quelques occasions, comme juste pour nous faire du mal. Mais la souffrance, quand que notre corps nous fait du mal, c'est parce qu'il nous envoie une information qu'il faut intervenir. Il faut intervenir rapidement. Et ce soir, je crois qu'on peut voir la souffrance que Dieu utilise. Dieu se sert de la souffrance pour nous avertir. De trois choses en particulier que j'aimerais qu'on voit ce soir. Que Dieu veut nous avertir que on est dans un monde qui est malade. On est dans un monde qui souffre. Et la souffrance qu'il y a dans le monde devrait nous avertir que quand que j'ai mal ici, là, si c'est mon appendice, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je me mets une serviette froide? Est-ce que je prends des Tylenol? Comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je fais juste soulager les symptômes ou je dois régler le problème? Je dois régler le problème. Je dois aller à la source, là où ça fait mal. La souffrance, souvent, elle est un symptôme d'un problème beaucoup plus profond qu'il y a. Et si on parle de le premier point que l'on voit ce soir, on va prier, puis après ça, on va le regarder, là. Mais si on voit que notre monde est malade et Dieu veut nous avertir à travers la souffrance qu'on est dans un monde qui souffre à cause d'un mal, d'un problème qu'il y a, ben on doit être réveillé. On doit entendre ce signal d'alarme-là pour réveiller notre esprit. Oui, Jacinthe? Oui? Oui? Je pense que oui, certainement. Et puis, sans aller trop loin, Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est facile d'aller trop loin, là. C'est pour ça que j'ose pas trop commenter. Mais ce que j'allais dire, c'est que je pense que notre être en entier est tellement interrelié dans toutes ses parties que quand que on a même une souffrance physique, notre âme souffre aussi. Notre morale souffre beaucoup. Que même, j'irais même jusqu'à dire que quand que notre morale et notre âme est puissamment souffrante, peut-être, mais même notre corps va en être affecté. On peut parler de maux de tête, d'ulcères, ou je veux pas aller trop loin, mais je crois que notre corps est affecté, même par notre être. Alors, des fois, c'est pas si évident que ça de départager la souffrance, hein? De catégoriser, de dire ça, c'est uniquement physique, et de dire que ça n'affecte pas notre morale, ou même notre spirituel, ça, c'est pas si évident. Mais je comprends ce que tu veux dire, Jacinthe, en disant que le moral, comme tel, est certainement une souffrance qui peut être aiguë. Jean-Pierre. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, absolument. Vas-y, Danny, après ça, on avance. Ah oui? Elle confirme ça aussi. Hein? C'est ça, notre tête est tellement interreliée dans toutes ses parties qu'elles sont toutes influencées l'une par l'autre. On va prier et on va lire ensemble dans Genèse un texte que on connaît et qu'on connaît et probablement qu'on connaît très bien. Mais j'aimerais qu'on l'observe sur la facette de la souffrance qui a pris naissance. Alors prions avant. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer de ce que tu es, de ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, on veut ouvrir notre intelligence à ce que tu as à nous enseigner, particulièrement sur la souffrance, parce que tu veux qu'on garde la foi, tu veux qu'on persévère avec toi, qu'on continue de marcher. Et Seigneur, on croit que tu veux utiliser la souffrance qui est autour de nous comme signal d'alarme. Tu veux éveiller notre intelligence et ce soir, on veut ouvrir ta parole pour justement comprendre c'est quoi ces signaux d'alarme-là que tu veux nous donner. Et comment est-ce qu'on peut certainement mettre notre intelligence à profit pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que toi tu désires, Seigneur, pour nos vies aussi, dans ces occasions-là. C'est dans ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen. Oui, vas-y, Normand. Oui. Oui. Oui, exactement. Et je suis d'accord avec toi. Et est-ce que, à travers la mini-série qu'on va faire sur la souffrance, on va voir toutes ces tentacules-là, comme tu dis? Ben non. Et ce soir, particulièrement, je veux en voir une qui, on peut comprendre que c'est des signaux d'alarme que Dieu donne. Mais comme tu dis, la souffrance, on peut observer différents volets à la souffrance de ce que Dieu veut nous enseigner aussi, de pourquoi est-ce qu'il le permet. Dans Genèse 3, les versets 14 à 19, un volontaire, s'il vous plaît. Le premier point qu'on voit ce soir, c'est que Dieu se sert de la souffrance pour nous avertir que le monde est malade. Et ça, ça a commencé dans Genèse 3. Dire que la souffrance est la conséquence directe de l'entrée du péché dans le monde, c'est l'explication la plus fondamentale qu'on puisse apporter. Et je ne veux pas que ça soit trop de base, trop fondamental, mais de l'autre côté, ça explique encore pourquoi aujourd'hui on entend la souffrance dans notre monde. Quelqu'un veut lire les versets 14 à 19? Serge, s'il te plaît. OK, puis je vais ajouter à ça les versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Comme je disais, là, on connaît l'histoire. On la connaît bien dans un sens, l'histoire d'Adam et Ève. Là. Surtout si on a quelques années dans la foi, on l'a entendu à plusieurs reprises. Mais prenons-le maintenant sous une facette de la souffrance qui vient d'entrer dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? T'es trop bien. Ouais. Est-ce qu'ils en avaient de la souffrance? Ouais. C'est ça. On n'a pas beaucoup d'indices, hein, mis à part le terme « augmenter ». C'est sûr que le temps sans péché, le temps d'innocence a tellement été court, du moins de ce qu'on voit dans les Écritures, qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour commenter comment est-ce que la vie était à ce moment-là. Je crois quand même que Dieu avait créé le système nerveux hein, dans Adam et Ève et qu'ils avaient une réaction. Je ne sais pas, est-ce qu'Adam, quand il se cognait la petite orteille sur le coin d'un arbre, il avait-tu mal? On n'a pas beaucoup de détails, mais une chose est claire, c'est qu'il s'est passé de quoi entre ce temps d'innocence-là et où la souffrance elle a commencé, et c'est le péché. Le péché est entré dans le monde. Et ça, c'est le nerf de la guerre sur la souffrance. C'est vraiment là, comme on parlait tantôt, de souffrance qui est beaucoup plus des symptômes et le problème qu'il y a derrière ça. C'est le péché qui a infecté tout le monde. C'est quoi les... Il devait certainement avoir des aspects de la souffrance qu'il n'avait pas expérimenté. Absolument. Et ça, il faut être clair aussi avec ça. Si il pouvait, je ne sais pas, expérimenter peut-être une souffrance physique ou parce qu'ils sont assis sur un tison, il faut qu'ils se lèvent à un moment donné, là. Faut pas qu'ils se brûlent, là. Mais ils se lèvent parce que là, il y a une alarme qui sonne, hein, t'es assis sur du feu, là. Mais ils se lèvent. Mais il y a une souffrance qui est attribuée au péché qu'il n'y avait pas avant. Ouais. OK, je pose la question. C'est quoi les souffrances qui ont pris naissance dans le jardin? Quelles sont les souffrances qui sont nées suite, je dis dans le jardin, mais en fait, suite à la chute? C'est quoi les souffrances qui sont apparues là, à ce moment-là? OK. Et ça symbolise cette souffrance spirituelle? Parce qu'ils ont réalisé, ils ont eu la connaissance bon, du bien et du mal, et puis là, l'innocence a été perdue, absolument. Quelles autres souffrances qu'ils ont appris là, suite à la chute? Vas-y, Claude. OK, qui allait mourir. OK. 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 Il y a une séparation, absolument. J'avais-tu vu ta main, René, après ça, François? Oui. C'est ça. Demander un. Oui. 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 Et c'est ça. Il y allait. OK. Oui, François. Oui. Alors, c'est ça, la honte de leur nudité face à Dieu. Oui, Normand? Oui. OK. Alors, il y a par exemple la descendance d'Ève, comparativement même aussi à celle de Satan, parce que là, il parle, regardez au serpent, le verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Il y a plusieurs malédictions qui sont commencées. Hein? Tu seras maudit entre tout le bétail, entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il y a certainement une guerre qui a commencé entre le bien et le mal, entre la femme et même la postérité de Satan. Et si je peux dire, c'est déjà une première prophétie où Jésus, on dit qu'il a écrasé la tête à la croix du serpent, de Satan, celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Puis aussi les relations, en allant plus loin, ce que tu dis, Normand, verset 15, puis j'allais aller un petit peu plus loin. Verset 16, j'étais pas très loin finalement. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Qu'est-ce qui allait commencer à ce moment-là aussi? Comme, on pourrait employer comme souffrance? Comme le mot comme souffrance? Difficulté conjugale. Dans les relations interpersonnelles, il y allait avoir aussi de la souffrance qui allait se manifester à partir de ce moment-là dans les relations interpersonnelles. Pourquoi? À cause du péché. La femme veut prendre la place de l'homme, puis l'homme, il va dominer sur elle. Il y a des rôles qui se sont inversés, et là, il y a des difficultés interpersonnelles qui s'ajoutent et qui vont créer beaucoup de souffrance. À cause de quoi? Du péché, de ces relations-là qui sont tendues. Serge, tu allais dire quelque chose? Oui. Oui. C'est ça. Oui. OK, t'es revenu en arrière là, dans le temps d'innocence, c'est ça que tu veux dire? À dire qu'il pouvait vivre une souffrance, comme s'asseoir sur un tison. Mais bref, je comprends l'interrogation que tu as, Serge. Et puis, j'ai vraiment spéculé en disant probablement que Dieu, en ayant créé ce système immunitaire, pas immunitaire, mais système nerveux, qui servait à quoi? Mais encore là, c'est comme je dis, c'est une période de l'histoire qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de révélations. Mais le temps que je veux prendre surtout, c'est pour voir qu'est-ce que Dieu nous a révélé sur la souffrance qui a émergé suite au péché. Et là, ça devient très évident, comme tu dis, là, et parce que les souffrances dans nos relations interpersonnelles. Oui. C'est ça? Oui. Oui. Il y a eu des changements absolument. On va, dans quelques instants, on va tourner dans Romains 8, mais exactement, il y a eu des choses qui se sont produites sur la terre qui n'étaient pas selon le plan initial de la création. Dans les relations interpersonnelles, dans le, on pourrait dire, ce qui concerne la femme, par exemple, dans mettre des enfants au monde, il allait avoir une souffrance qui, le terme est là, augmentée. Et, pour l'homme, regardez, pour l'homme dans son cas, verset 17, « Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Le sol qui va cultiver, Dieu le maudit à cause du péché de l'homme. Et qu'est-ce que ça va apporter comme souffrance? Le travail n'est pas une malédiction. Le travail est une bénédiction. Mais le problème, par exemple, c'est que le sol allait être maudit. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ton travail va devenir ardu, va devenir difficile, ça va être compliqué. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, jusqu'à ta mort. D'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière, comme tu disais l'autre tantôt. La mort, là, ils allaient retourner à la poussière. Alors, oui, ça ne sera pas long, Claudette. Il y avait une souffrance pour la femme de cette douleur augmentée à mettre les enfants au monde, mais aussi à l'homme de ramasser, par exemple, son pain et puis de cultiver la terre. Aujourd'hui, peu d'entre nous sommes des cultivateurs, mais la malédiction elle demeure là quand même. La terre, elle a été maudite et notre travail, certainement qu'il y a des souffrances. Le travail comme tel n'est pas lui-même uniquement une souffrance, mais à travers dans le travail, il y en a. Et cette souffrance-là nous rappelle, cette alarme-là que Dieu nous rappelle, qu'il y a un mal qui ronge le monde depuis le jardin. Oui, Claudette? Oui. 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 Et absolument, cette souffrance spirituelle. Et c'est ça. Est-ce que le monde souffre de ça encore aujourd'hui? Absolument. Le monde est dans la souffrance. Et ça pose la question, pourquoi la souffrance? Puis Dieu est en train de nous dire, il y a un mal. Ce mal-là, certainement, qui conduit à la souffrance, qui éveille nos oreilles en disant, il y a un signal d'alarme, il y a de quoi qui cloche dans le monde. Et on connaît, on a cette révélation-là que Dieu nous apporte, que la souffrance est certainement née en très grande partie à partir de la chute, à cause du péché. Oui, Jean-Pierre? Oui. C'est ça. Oui. Oui. C'est ça. Absolument. Parce qu'on connaît justement ce que Dieu nous a révélé sur la souffrance, comment est-ce qu'elle est née. Et quand on témoigne avec un inconverti, à un inconverti, ben il peut avoir cette réponse-là. Regarde la souffrance qu'il y a dans le monde. Il me semble que c'est un signe que si Dieu laisse aller les choses, que si Dieu existe, il n'y en aurait pas de souffrance. Il pourrait dire ça. Mais la souffrance est un signal d'alarme que le monde est malade à cause du péché. Est-ce que Dieu a apporté un remède à cette maladie-là, à cette souffrance-là qui fait souffrir le monde? Bien, certainement, on la connaît, hein? Jésus-Christ, qui est mort pour les péchés. Est-ce qu'il y en a encore des souffrances? Mais oui, mais il y a aussi des promesses que Dieu nous amène, qu'il n'y en aura plus de cette maladie-là, éventuellement, où il y aura complètement l'anéantissement du mal sur la terre aussi, là. T'as-tu dit... non, OK. Tourne avec moi dans Romains 8. Dieu se sert de la souffrance pour nous avertir que le monde est malade. Et pour nous, qu'est-ce que ça change en tant que croyants quand on voit la souffrance de notre monde? Qu'est-ce que ça doit éveiller dans nos têtes de voir la souffrance? Qu'est-ce que ça nous fait quand on entend cette alarme-là? On va lire, puis après ça, je vous laisserai répondre. Regardez Romains 8. On aurait pu lire, je vais couper un peu les textes parce que je réalise que le temps passe vite encore. On va aller à partir du verset... On va lire ce que je voulais lire finalement. 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça veut dire quoi, ça? On va continuer de lire. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Elle attend cette création-là. Verset 20, car la création a été soumise à la vanité. Elle n'est pas capable d'accomplir présentement son but parce que elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Dieu a maudit la terre à cause du péché de l'homme. Verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. C'est quoi le mal? C'est quoi le problème dans le fond de notre monde? La corruption. Et même la terre entière, la création entière souffre la corruption pour avoir peur à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La terre entière, la création. Et ça, à partir de quand? À partir du péché. À partir du péché. Et ça, c'était vrai encore au temps de Paul, et c'est encore vrai de notre temps. On entend la souffrance, on voit la souffrance dans le monde, et c'est un signal d'alarme qui nous rappelle le monde malade dans lequel on est présentement et qui a besoin d'être guéri. On va continuer d'avancer. D'une deuxième utilité que Dieu emploie comme signal d'alarme, Dieu se sert de la souffrance pour nous avertir que le monde est malade, mais que l'humanité aussi est malade. La souffrance peut venir peut-être de la conséquence des actes d'autrui. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est-à-dire que on peut souffrir à cause des actes d'autrui, à cause de mon prochain. Je parlais ce matin de Caïn. Abel a souffert à cause de son frère Abel. On pourrait parler de différentes histoires qu'on voit dans les Écritures. Là. Joseph avec ses frères, Joseph avec la femme de Potiphar, Pharaon avec les Hébreux, Hérode contre Jésus, même Hérode contre les enfants de moins de 2 ans. Hein. Imaginez la souffrance qu'il y a pu y avoir dans le pays quand que Hérode a fait tuer les enfants de moins de 2 ans. Là. Bien, encore là, c'est un acte d'autrui. Et la souffrance peut être aussi l'œuvre de Satan, de ses démons. On ne reviendra pas trop là-dessus parce qu'on a parlé de Job, mais on aurait pu parler aussi, je vais faire une petite énumération puis je vais vous poser une question, on pourrait parler aussi de Paul, Kevin Nishart dans la chair. Et que c'est un ange, j'oublie le terme, c'est un ange de Satan, quelque chose comme ça que ça dit, là, un ange de Satan, qui lui a mis cette écharpe dans la chair pour s'empêcher de s'enorgueillir. Pour l'empêcher de s'enorgueillir. On pourrait parler d'autres exemples aussi, même dans les évangiles, hein, où on voit des gens qui sont possédés de démons, et puis qui certainement ils vivent la souffrance à cause de l'œuvre de Satan et de ses démons. Le monde est le domaine que Satan emploie pour faire son activité. Et à cause de son activité, il y a beaucoup de souffrance qui est là. Maintenant, quel est le contrôle que Dieu exerce sur le monde, malgré la souffrance produite par autrui, malgré la souffrance produite par Satan et ses anges? Il est où Dieu là-dedans? Quand mon prochain me fait souffrir, quand je souffre à cause du mal d'autrui, quand je souffre à cause de l'œuvre de Satan et ses anges, il est où Dieu là-dedans? Je pose la question bête de même. C'est ça? Quelqu'un qui s'est enlevé son enfant? Exactement. Il se fait tuer son enfant? Il va se poser la question, certainement plein de questions, à savoir comment ça se fait. Qu'est-ce que Dieu fait là-dedans? Quelle est la souveraineté de Dieu dans ces circonstances-là quand je souffre à cause du prochain? Quand je souffre à cause de l'activité de Satan et ses démons? Est-ce que Dieu est encore au contrôle? Oui? Oui. Dans notre... OK. Ça s'en vient. Oui. OK. Ah oui. OK. Oui. Oui. OK. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. Oui. Oui, oui, absolument. Quand que je souffre à cause de mon prochain, parce que, par exemple, quelqu'un a pris un de mes enfants, et il y en a de la souffrance dans le monde en abondance à cause du péché d'autrui, hein? Et puis même à cause de l'œuvre de Satan et ses anges, là, il y en a beaucoup de souffrance qui est issue de là. Et tout ça sont des signaux d'alarme aussi, qui montre qu'effectivement, il y a un problème dans l'humanité, chez les hommes. Mais où est Dieu là-dedans? Dieu, il est là. Et il ne faut pas l'oublier. Parce que trop souvent, dans cette souffrance-là, on pourrait oublier justement la présence de Dieu. Bien qu'on le sait, mais de s'en souvenir d'une façon où on le croit qu'il est là. Et c'était quoi la foi de Paul? Quand il a demandé à Dieu d'y enlever son écharpe dans la chair, c'est quoi que Dieu lui a dit? Oui, puis juste avant, il a dit non. Mais il a dit, ma grâce te suffit. Il a dit non, je ne te l'enlèverai pas. Puis pourtant, c'est un ange de Satan qui lui a mis ça. Puis il a dit non, tu vas rester avec, puis ma grâce te suffit. Parce que Paul, il y avait de quoi apprendre aussi dans cette souffrance-là, hein, d'être gardé dans l'humilité. Quand que Job a souffert à cause de Satan et ses anges, est-ce que Dieu était là? Ben oui, il était là. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Non, Dieu ne l'a pas abandonné. Mais Job avait à se souvenir, comme on en a parlé tantôt, on s'est rappelé tantôt, tu peux tout. Il n'y a rien qui s'oppose à ta pensée. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Je mets ma main sous ma bouche, puis j'accepte ce que je vis parce que tu es souverain. Mais toujours dans la foi, que tu es au contrôle de ma vie, même si je souffre à cause de mon prochain, même si je souffre à cause de l'activité de Satan et ses anges. C'est pas toujours évident de discerner l'activité de Satan et ses anges, mais le mal qui règne sur la terre, certainement. Oui, Serge, tu allais dire quelque chose. Et tantôt, dans quelques... Oui, c'est ça. Mais vas-y, Serge, lis-le quand même. Oui. C'est ça. C'est ça? Oui. Absolument. C'est ça? Oui. Absolument. Et on peut se placer dans le contexte de ces gens-là à qui Pierre il s'adresse, qui sont dans la persécution à cause de leur foi, puis qui sont justement sujets à la souffrance à cause du péché d'autrui, puis que Dieu leur dit, remettez-vous-en à celui qui peut vous faire vengeance ou qui peut prendre soin de vous et qui va s'occuper du mal qu'il y a encore sur la terre. Et il y a une promesse exactement à tout ça. OK, je voulais aller plus loin. Peut-être que je pourrais commencer en introduction la prochaine fois avec ça. Mais la souffrance qu'on voit, c'est que la souffrance, c'est un signal d'alarme. Si on revient à notre corps physiquement, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal et qu'on croit que c'est l'appendice? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va chez le docteur. Quand on réalise qu'on a une souffrance qui est persistante au cœur, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le docteur. Quand on se casse une jambe puis qu'on a mal puis que notre intelligence nous dit il y a de quoi qui se passe avec ta jambe, qu'est-ce que tu fais? On va voir le docteur. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre quand on voit ces souffrances-là, qu'on entend ces souffrances-là, qu'on vit ces souffrances-là? On devrait le prendre comme ce signal d'alarme-là qui dit va voir le docteur. Spirituel. Remets-toi-en à Dieu. Si tu souffres, remets-toi-en à Dieu. Va voir Dieu. Cette souffrance-là m'emmène à aller voir la personne qui peut me guérir. C'est Dieu. Oui, vas-y, demande après ça, Claude. Oui. Quand les autres te font souffrir? Oui. 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 Mais c'est de la souffrance. Tu auras beaucoup de souffrance, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette souffrance? OK. Mais. Oui. Je comprends ta question. Puis, comprenez que la souffrance est un sujet qui est lourd. Hein? La souffrance est un sujet qui, quand on est dedans, on se contente peu de réponses bonbons. J'en conviens, puis je comprends ça. De l'autre côté, il y a des vérités qui sont là, auxquelles il faut se rattacher. Et je comprends que ce que tu dis, dans le sens, ça va nous amener où? Qu'est-ce que ça va éveiller d'autre? Et puis... si je peux faire référence au film qu'on avait vu sur les Amish, ces gens-là, j'aimais beaucoup la question qui a été posée au jeune homme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne me souviens pas si on l'a vu, là, mais quelqu'un lui avait posé, la journaliste lui avait posé la question, « Est-ce que tu as pardonné? » Puis il a dit, « Mais ça a pris un certain temps. » Puis il a dit, « Pourquoi tu l'as fait? » Puis il a répondu, « Mais parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu l'a voulu. » Mais cette réponse-là, au moment qu'elle descend dans notre cœur puis qu'elle s'exprime correctement, c'est là qu'elle est plus une réponse bonbon là. Tu sais, quand on parle de la volonté de Dieu, c'est plus que quelque chose qui est dans notre tête, mais de vivre Ce que Dieu nous demande, parce qu'on croit que c'est sa volonté, est d'accorder le pardon à cette personne-là qui a tué les enfants. C'est parce qu'il a compris, dans un sens beaucoup plus que par sa tête, c'est quoi la volonté de Dieu. Et qui l'a amené plus loin. Je ne connais pas sa foi dans son cœur face à Dieu, mais j'ai trouvé sa réponse, pour moi, qui m'a touché, là. Claude, c'était toi qui avais levé la main ou Claudette après? Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et les conséquences de ces choix-là, de nos mauvais choix, quand ils nous retombent en face, puis qu'on vit cette souffrance-là à cause de nos propres choix, ça devrait éveiller notre intelligence puis dire, il y a de quoi qui n'est pas en règle. Il y a de quoi qui ne marche pas dans ma vie. Et ça, c'est un signal d'alarme en disant, je suis en train de me conduire dans une voie que Dieu veut pas et que je vais m'en repentir. Et Dieu nous, certainement, éveille notre esprit par la souffrance. J'ai vu deux mains levées, après ça, on termine avec ça. Claudette et René. Non? OK. Oui. Oui. C'est ça qui lui cause encore plus de souffrance? C'est ça. Ben oui, ben oui. 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 C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui. Et Dieu, même s'il y a des souffrances, cette souffrance-là va être atténuée, certainement, comparativement dans l'orgueil ou dans l'amertume, elle va s'amplifier. Aussi. Oui. Oui. C'est ça. Oui. Oui. Mais tantôt, je disais, et je conclue sur ça, tantôt, je disais, la souffrance est un signal d'alarme qui devrait nous amener à Dieu, constamment. Et pas faire l'inverse, pas s'éloigner de Dieu, mais de s'en aller à Dieu. Vous tous, comment est-ce qu'il dit ça? Venez à moi, vous tous qui avez. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand que je souffre, je vais à celui qui est le docteur de mon âme. Je vais à mon maître, je vais à mon Seigneur, et il me donne du repos. Et ce repos-là, c'est lui qui peut me le donner dans la souffrance. On termine là pour ce soir. Seigneur, on vient devant toi encore pour te louer, parce que tu es un Dieu qui nous aime, et tu prends ton temps, Seigneur, constamment à nous le rappeler, à nous le dire, à nous le manifester. Et à travers cette souffrance-là, Seigneur, tu veux qu'on peut voir sur le monde, qu'on peut voir dans les gens, qu'on peut voir nous-mêmes dans nos propres vies. Tu veux, Seigneur, nous rappeler que tu es là. Tu veux nous rappeler que l'on peut venir à toi, qu'on peut avoir ce fardeau allégé en te le donnant et en obtenant du repos. On veut te louer pour ça, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que tu prends soin de nous et tu es le Dieu de toute consolation. C'est en nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.